Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Il me semble aujourd'hui, Franck, que vous avez invité Hugo Frey. Bonjour à vous.
Bonjour Fatima, bonjour à tous. Et oui, vous allez voir pourquoi nous avons invité Hugo Frey. Vous savez bien qu'en France, tout finit par des chansons. Eh bien, en vérité, Hugo Frey est à la recherche de ses ancêtres. Il a découvert que l'un d'entre eux faisait partie de ces gentilshommes, tout prêt à libérer Louis XVI. Il va nous en parler tout à l'heure lui-même. Vous savez qu'en janvier 1793, la Convention condamnait à mort le roi Louis XVI. Eh bien, avant même cette décision fatidique, et bien sûr, aussitôt après, une poignée de fidèles se sont jurés d'enlever le roi déchu pour qu'il ne soit pas exécuté. Ce sont leurs tentatives que nous allons évoquer aujourd'hui.
De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand.
Le 29 Prairial en deux, c'est-à-dire le 17 mai 1794, quatre charrettes conduisent à travers Paris 54 condamnés. On les a tous revêtus de la chemise rouge des parricides et on les conduit comme ça au gré des pavés parisiens jusqu'à l'échafaud. C'est une effroyable saignée qui va avoir lieu et qui entre dans l'histoire sous le nom de messe rouge. Terrible punition pour ces 54 personnes. Il y a là des hommes, des femmes, des vieillards et même un adolescent de 16 ans. Des personnes que le tribunal révolutionnaire a reconnues coupables d'un complot visant à assassiner les hommes forts de la Convention en cette période de grande terreur, à savoir Robespierre et Collot d'Herbois. Le cerveau du complot ne fait pas partie des suppliciés. Il a échappé aux bras de la justice et certains historiens, ils ne sont pas tous d'accord sur ce sujet, certains pensent qu'il se trouvait ce jour-là à Paris même, au milieu de la foule qui assistait à la messe rouge. Il porte un nom déjà bien connu dans l'histoire pour avoir été le patronyme du mousquetaire d'Artagnan. C'est le baron de Basse. Alors, qui est-il? Ça s'écrit B-A-T-Z. Qui est-il? Mais on prononce Basse, ça fait partie de ces curiosités de l'histoire. Qui est-il, ce baron de Basse? Il est né 30 ans plus tôt, dans sa noble famille de Gascogne. À 12 ans, il était volontaire au régiment des dragons de la Reine. À 15 ans, il en était déjà le sous-lieutenant. Alors, dès 1784, il passe au service de l'Espagne, mais il le fait avec l'autorisation du roi Louis XVI. Et il rentre en France 3 ans plus tard, à la fin de 87. Il obtient le grade de colonel. Toujours dans son même régiment. Et en 1789, on le voit député de la noblesse. C'est à ce moment-là que commence sa carrière. Une carrière qui va l'imposer non pas en tant que militaire, en dépit de ce que je viens de vous raconter, mais bien en tant que financier. Voilà un homme qui maîtrise tous les rouages de la finance et qui va savoir procurer de l'argent à ceux qui en ont besoin. Il fait partie de ceux qui, sur le tard, en 1792, vont émigrer au moment de la chute de la monarchie. Il faut savoir que pour le baron de Basse, la raison de vivre de cet homme, on peut dire, c'est la monarchie, c'est le soutien fidèle de la famille royale. Du reste, il revient à Paris, il y est le 1er juillet 1792, et d'ailleurs, sur le livre de compte de Louis XVI, à cette date, on note « Retour et parfaite conduite de Monsieur de Basse, à qui je redois, écrit Louis XVI, 512 000 livres ». Une grosse somme, bien entendu. Le 21 janvier 1793, c'est le jour de l'exécution de Louis XVI. Sur le boulevard Bonne Nouvelle, comme tout au long du cortège jusqu'à la place de la Révolution, ce que nous appelons nous aujourd'hui la place de la Concorde, s'est massée une foule pour voir passer la voiture du roi. Le roi n'est pas conduit à l'échafaud en charrette, vous savez, il est dans la voiture du maire de Paris. Et à l'angle de la rue de la Lune, d'un seul coup, on voit une échauffourée. C'est là que c'était posté le baron de Basse, qui était là avec tout un plan pour tout vous dire. Il a avait réussi à convaincre, à réunir et à financer, disons-le, 5 à 600 jeunes royalistes qui, en ce matin de l'exécution du roi, à cet endroit précis, sur le signal du baron de Basse, devaient se ruer sur la voiture royale et tuer tous ceux qui s'opposeraient à leur action. Leur but, c'était d'enlever le roi. À nous, mes amis, ceux qui veulent sauver leur roi, tel était le signe de ralliement, le moment, telle était la phrase que devait prononcer le baron de Basse pour lancer l'offensive. À nous, sauvons le roi. En vérité, cette offensive est un véritable fiasco. Il y a bien une échauffourée, il va y avoir des échanges de coups de feu et même quelques, on va ramasser quelques personnes, simplement sur le carreau, simplement la plupart des 500 jeunes royalistes qui avaient été convoqués se sont vus arrêtés à 3h du matin par des gendarmes qui s'étaient installés à leur domicile avec l'ordre formel de les empêcher de sortir avant midi. La conspiration avait été éventée. Après la mort de Louis XVI, il reste évidemment des prisonniers au temple. Nous en avons parlé il y a quelque temps du reste. La reine, ses enfants, le petit dauphin qui devient donc pour les royalistes Louis XVII et Madame Royale, et puis la belle-sœur de la reine, Madame Élisabeth, la plus jeune sœur de Louis XVI. Tout ce monde-là est toujours à la prison du temple. Et Basse n'a plus qu'une idée, ça va être désormais de sauver la reine. Alors il met au point tout un plan encore plus téméraire que celui du 21 janvier. Cette fois, il s'agit de s'introduire au temple. Alors, dans un premier temps, on a fait passer des uniformes pour Marie-Antoinette, pour Madame Élisabeth, pour Madame Royale, etc. Le petit Louis XVII, lui étant tout petit, on pense qu'il pourra sortir de façon plus discrète, passer inaperçu. En tout cas, il va falloir que les princesses revêtent des uniformes sortir en même temps qu'une patrouille qui quittera le temple. Basse a rallié pour ça le commandant de la force armée de la section locale, l'homme qui commande de temps en temps la surveillance du temple. Et puis il a rallié aussi un certain Michonis, retenez ce nom, lui aussi est régulièrement de garde au temple et lui aussi a été rallié par Basse. On choisit le jour où la garde est propice en quelque sorte pour essayer de s'introduire, de se réunir dans cette prison du temple. Tout est prêt. Basse arrive lui-même à la tour, il est vêtu d'un déguisement, il trouve là 30 hommes dévoués qui occupent tous les services de la prison, qui gardent les escaliers, qui sont chargés des patrouilles. Michonis s'est arrangé pour qu'on lui confie la garde de la reine et des princesses, les uniformes dont je vous ai parlé sont prêts, bref, tout est prêt. Et puis, contre-temps, ceux qui attendaient dehors ne voient rien venir, ils finissent par se disperser. Et oui, car au moment où la patrouille de relève allait quitter la tour, eh bien des coups ont été frappés à la grande porte du temple. On a ouvert. Et en fait, la personne qui arrivait là, c'était le cordonnier Simon, le futur gardien de Louis XVII, qui est délégué par la commune et qui somme Michonis de lui remettre sur le champ ses fonctions et de se rendre au siège du comité. Pourquoi est-ce que tout a été arrêté comme ça, in extremis? Eh bien parce qu'une nouvelle fois, une lettre anonyme est arrivée qui a dénoncé la conspiration. Et ce personnage qui arrive, ce cordonnier Simon, c'est à lui qu'on confiera par la suite, vous savez, la garde de Louis XVII. Il monte précipitamment les marches de la tour, il s'assure de la présence de la reine et des princesses qui sont toujours là, ainsi que du dauphin, et aussitôt après, il a pour mission d'arrêter le baron de Basse. Sauf que le baron de Basse est insaisissable. Il est incroyable ce personnage, on n'arrive jamais à mettre la main dessus. Il faut dire qu'il a des relations incroyables, il y a tout un réseau au sein de l'administration révolutionnaire. Il a aussi des fonds qu'on dit inépuisables. D'où lui viennent-ils ces fonds? Certains prétendent que c'est d'Angleterre. D'autres ont une version plus prosaïque, ils disent que dans la cave du baron de Basse, il y a tout simplement des presses qui fabriquent de faux assignats. Ça c'est pratique quand on a besoin de beaucoup d'argent pour acheter un certain nombre de révolutions.
Thank you.
C'était l'ouverture pour instruments à vent composée par François-Joseph Gossec.
Je vous ai dit que notre baron de Basse disposait de fonds quasiment illimités. Il aurait offert 1 million à qui parviendrait à libérer la ci-devant reine de la prison de la Conciergerie, où elle a maintenant été transférée à la fin de l'été 93, dans l'attente d'un jugement dont l'issue ne fait aucun doute. Alors, un certain nombre d'agents vont relever le défi. En l'occurrence, c'est une sorte d'aventurier assez louche, Alexandre Gonce. C'est un faux vétéran de la guerre d'indépendance américaine, faux marquis, mais depuis 1791, véritable chevalier de Rougeville. Il s'était fait connaître de la reine en la protégeant personnellement au moment de la première invasion des Tuileries, vous savez, le 20 juin 92. Il a réussi donc, ce Gonce, à se faire conduire jusqu'à la cellule de Marie-Antoinette en compagnie du Jean-Baptiste Michonis dont je vous parlais à l'instant, toujours le même. Nous sommes là le 28 août 1793. Or, au revers de son habit rayé, Monsieur Gonce de Rougeville, comme il se fait donc appeler, arbore 2 œillets. Alors, il feint de se pencher, il fait semblant, si vous voulez, il a un geste de distraction, il fait semblant de laisser tomber les œillets qui se trouvaient à son revers. Et en vérité, ces œillets contiennent des messages qui ont été très artistement roulés dans les pétales de la fleur et qui sont destinés à la reine, bien entendu. Le chevalier accompagné de Michonis repart et la reine peut lire à ce moment-là ces mots. « J'ai des hommes et de l'argent ». Vous imaginez l'émoi de la pauvre femme qui sait qu'elle est vraiment qu'elle est condamnée. Elle répond en écrivant, vous savez, avec la pointe d'une épingle sur du papier, elle fait des petits trous pour écrire « Je suis gardée à vue, je ne parle à personne, je me fie à vous, je viendrai ». Et un quart d'heure plus tard, on voit le chevalier de Rougeville qui revient, toujours avec Michonis. Là, une conversation s'engage. Le chevalier informe Marie-Antoinette qu'il reviendra le surlendemain et qu'il apportera tout l'argent nécessaire pour acheter ses gardiens. On va voir entre-temps Marie-Antoinette faire l'impossible pour s'assurer la complicité du gendarme Gilbert. C'est lui du reste qui remet le message de la reine, le message marqué comme ça au petit avec l'épingle, qui remet ce message au chevalier. Et 2 jours plus tard, les deux hommes sont de retour à la Conciergerie pour régler avec l'ancienne reine tous les détails de l'évasion qui doit prendre place dans la nuit du 2 au 3 septembre 1793. Le couple de concierge Richard, celle qui sert de servante à la reine, elle s'appelle Marie Harel, tout ce monde-là est dans le secret. Le chevalier de Rougeville détient 400 louis d'or et 10 000 livres d'assignats qui sont destinés à acheter les gardiens qui pourraient se montrer récalcitrants. Et donc, le 2 septembre, à l'heure dite, la reine sort de son cachot, elle traverse la pièce où sont les gendarmes, elle pénètre dans la loge du concierge Richard, elle passe, semble-t-il, pour autant qu'on puisse le savoir, les deux guichets, il n'y a plus qu'une grille, il n'y a plus qu'une cour entre elle et la liberté. Seulement voilà, à ce moment-là, le gendarme Gilbert prend peur, il hésite, il va changer d'avis. Et il va reconduire la reine à son cachot. Et pire que cela, il a paniqué, il se met à rédiger un rapport pour le comité de sûreté générale. On imagine combien cet épisode, encore une tentative manquée d'évasion, combien cet épisode pèsera contre la reine lors de son procès quelques jours plus tard. Marie-Antoinette est guillotinée le 16 octobre 1793. Alors après la mort de la reine, on accusera encore Basse d'avoir été l'âme de ce fameux complot contre Robespierre qui devait conduire à l'échafaud les 54 personnes dont... je vous parlais tout à l'heure, il semble bien qu'en vérité, l'auteur du rapport, ce qu'on a appelé ça la conspiration de l'étranger, l'auteur du rapport ait prêté au baron de Basse un rôle qu'il n'était pas en mesure de jouer et que cette accusation relève davantage du montage policier. Quoi qu'il en soit, Basse n'en est pas moins entré dans la légende comme le principal, comme le plus habile, le plus aventureux des agents de la contre-révolution. Il inspirera en partie Alexandre Dumas pour son personnage du chevalier de Maison Rouge, même si ce dernier tient beaucoup plus encore de Rougeville, l'auteur de la conspiration de l'œillet. Il faudrait citer encore parmi tous ces agents royalistes Jarget, bien sûr, et Toulan et Le Pitre. De tous surnage le nom de ce Gascon, de ce Basse insaisissable, insaisissable comme une sorte de fantomas de la Révolution.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Et aujourd'hui, Franck Ferrand nous raconte comment Marie-Antoinette et surtout Louis XVI auraient pu être sauvés.
Et oui, et nous allons le faire en compagnie de deux auteurs. Philippe Laurensou, qui a été, je l'ai déjà reçu il y a quelque temps, Philippe Laurensou a été l'élève de Paul et Pierrette Giraud de Coursac. Et c'est vous qui avez fait, qui avez écrit toutes les notes de la célèbre biographie Louis XVI, hein, par Paul et Pierrette Giraud de Coursac. Vous avez travaillé avec eux pendant de nombreuses années.
De nombreuses années, oui. J'ai en effet établi cette biographie qui a été terminée par Madame de Coursac peu de temps avant son décès en 2010.
Ça s'appelle Louis XVI ou la vraie grandeur,
qui paraîtra, je pense, je crois que c'est au mois de septembre. Et donc, il fait un certain nombre de notes, le but étant de faire en sorte que ce livre puisse être lu par absolument tout le monde, compréhensible par tout le monde, et de donner en notes précisément tous les éléments pour montrer, pour prouver les affirmations qui sont données dans ce livre, puisque la recherche de ce livre, qui a été celle du reste de toute leur vie, c'est la recherche de la vérité appliquée au règne de Louis XVI.
Alors, il est très difficile d'entrer dans les arcanes, dans le détail de toutes ces opérations qui ont été montées au moment de la détention de la famille royale au Temple, puis au moment de la mort de Louis XVI, puis au moment de la détention de ce qui restait de la famille encore au Temple, et enfin à la conciergerie. On a bien compris qu'un certain nombre d'initiatives, plus ou moins désordonnées, ont eu lieu, et que le rapport qu'on en a est doublement biaisé généralement. Soit biaisé par les témoins eux-mêmes qui, notamment au moment de la Restauration, sous Louis XVIII, ont essayé de se faire valoir, soit biaisé par la police même de la Révolution, qui a eu tendance, dans un premier temps, à charger un certain nombre de personnages, dont le baron de Basse. On lui a prêté beaucoup, comme on dit, on ne prête qu'aux riches.
Oui, c'est certain.
C'était le cas de le dire, il était très riche.
C'est le cas de le dire, oui, d'une fortune dont, en effet, on ne peut pas très bien savoir d'où elle était. Les faux assignats sont une réalité parfaitement historique. Il est fort probable, en effet, qu'il ait trempé là-dedans. Mais il est certain, en tout état de cause, que lorsque des gens écrivent longtemps après, ils vont essayer de se justifier. Parfois même, ils vont essayer de se donner l'importance qu'ils n'ont pas eue.
Oui, d'inventer ou en tout cas de broder un rôle.
Absolument. On l'a vu à un autre épisode qui est l'arrestation du roi à Varennes, lorsque Bouillet prétend qu'il a proposé ce qu'on pourrait appeler une chevauchée fantastique à Louis XVI et à sa famille, en leur disant « on va vous donner quelques chevaux des hussards qui sont là et vous allez partir comme cela ». Mais qui sait monter à cheval ? Louis XVI ? Madame Élisabeth. Mais Marie-Antoinette, qui a beaucoup souffert de ses couches, a tellement de mal à marcher, malgré sa jeunesse, qu'elle loge au rez-de-chaussée à Versailles et qu'elle logera au rez-de-chaussée aux Tuileries. Comment peut-on imaginer qu'il y ait pu être réaliste de voir Marie-Antoinette monter sur un cheval de hussard, avec, entre parenthèses, le fait que c'est une cheval d'homme, une selle d'homme, donc c'est avec les vêtements féminins de l'époque, qui, en l'occurrence, sont des robes assez à fourreau, il est inconcevable.
On est toujours dans l'urgence des circonstances, finalement.
Oui, l'urgence des circonstances, racontée un peu plus tard, ce qui fait que M. de Bouillet avait dû oublier que, quelques 20 ans plus tard, qu'à cette époque-là, les femmes ne portaient pas les vêtements qui pourraient permettre de monter à cheval comme un homme, et surtout que Marie-Antoinette avait du mal à se mouvoir. Mais qui s'y intéressait à la Restauration ?
Alors ça, c'était effectivement au moment de la fuite à Varennes en juin 91. Venons à la captivité de la famille royale. Donc la monarchie est tombée le 10 août 1792. La République sera proclamée quelques jours plus tard, enfin quelques semaines plus tard.
Oui, juste
au
après,
début
le lendemain de Varennes.
Exactement.
De Valmy, pardon.
De Valmy, voilà. Donc en septembre 1792. On conduit donc, après un petit passage au Feuillant, oui, sur lequel on ne va pas s'attarder, on conduit le roi, la reine, leur famille, dans cette prison, dans cette épouvantable tour du Temple, hein, qui se trouvait dans l'ancien enclos des Chevaliers du Temple, tout simplement.
Oui, assez grand, je crois que ça faisait 125 hectares.
C'était immense, hein, ça avait appartenu au frère, au plus jeune frère de Louis XVI, le comte d'Artois, qui était en émigration à ce moment-là, et ils sont là détenus. Est-ce qu'ils savent qu'autour, que dehors, que derrière les murs, se préparent des complots, des conjurations visant à les faire libérer ?
Alors, il est très difficile de répondre avec certitude, mais le fait est que le régime de détention du roi et de la famille royale est un régime tout à fait unique. Ils sont séparés de tout, coupés de tout. Ce qui fait, par exemple, que Louis XVI n'apprendra la proclamation de la République, en réalité, donc, qui a lieu le 21 septembre, il ne l'apprendra que le 7 octobre. lorsque Manuel voudra se donner le plaisir un peu sadique d'annoncer lui-même au roi l'abolition de la monarchie.
Donc eux ne savent pas tout ce qui se trame. Quel est le rapport qu'entretenait Louis XVI avec ce baron de Basse, qui descend du célèbre D'Artagnan, en l'occurrence, avec ce gentilhomme gascon? Il avait avec lui, semble-t-il, des rapports qui étaient essentiellement des rapports de finances. Il trouvait auprès de lui des liquidités nécessaires pour mener une diplomatie parallèle.
Mais c'est-à-dire que Louis XVI a toujours essayé, parce que c'est un homme qui veut le bien de son peuple, de faire entendre la voix de la vérité au peuple. Donc il a essayé de rétribuer un certain nombre de gens pour essayer de prêcher, le mot est peut-être un petit peu bizarre, mais tout au moins de proclamer la vérité contre tous ceux qui, par exemple dans le jardin du Palais Royal ou ailleurs, proclamaient toutes les erreurs que distillaient les journaux révolutionnaires, etc. Donc il y avait en effet...
Oui, c'était en tout cas la vérité selon Louis XVI, disons-le.
Oui, c'est-à-dire la vérité sur ce qu'il faisait réellement. Parce que lorsque l'on accuse...
Sur son attitude personnelle.
Voilà. Oui. Lorsqu'on l'accuse d'avoir vouloir saboter la défense nationale, ce n'est pas lui du tout.
Il essaie de répondre, et pour répondre, il faut se concilier quelques bonnes grâces, et pour ça, il faut de l'argent.
Il faut de l'argent, et puis il faut aussi des hommes qui soient prêts à le faire.
Et donc là, évidemment, un baron de Basse peut jouer un rôle important.
Mais dans des situations pareilles, seuls jouent réellement des rôles importants des gens que je dirais un peu originaux, ou des gens que l'on pourrait qualifier de très libres.
Oui, ce sont des aventuriers.
Voilà.
Alors, parmi ces aventuriers, il y en a eu un certain nombre. Tous ne sont pas connus, disons-le. Certains ont agi sous un anonymat total ou sous de faux noms. Enfin, tout ça est extraordinaire. Il a été question à plusieurs reprises d'aller remplacer le roi et la reine au temple, de prendre leur place en quelque sorte et de les faire, de les évacuer discrètement.
Oui, alors on peut sourire en effet, parce que je crois que vous voulez un mot très amusant, discrètement, oui. Quand on voit la sécurité qui entourait cette détention au temple, il y a quand même 400 hommes d'armes, il y a 40 personnes qui circulent dans la tour, et on nomme des gens qui sont sûrs, qui ont été recommandés par la Commune insurrectionnelle de Paris. Et on sait que la Commune insurrectionnelle de Paris, ce sont vraiment des ennemis très féroces de Louis VII, ou ceux qui ont participé dès le début aux émeutes. On va construire des guichets. Et en plus, vous avez des gens qui sont chargés de surveiller ceux qui surveillent. Et chacun s'espionne et chacun va dénoncer les uns les autres. C'est ce qui va arriver à François Hue, par exemple. C'est ce qui va arriver ultérieurement à Cléry. Les Tisons, par exemple, sont là pour surveiller que les surveillants
Alors,
font leur travail.
Ce qui a eu lieu aussi, ce sont des propositions beaucoup plus officielles d'un certain nombre de nobles qui propose d'aller prendre au temple la place de Louis XVI et de Marie-Antoinette, d'être en quelque sorte des otages, voire même, pourquoi pas, de devenir prisonniers à leur place. Ça existait aussi. Il y a eu de belles propositions.
Il y a eu de belles propositions. Il y a eu même des propositions de la part de chefs d'État, comme Charles IV, qui fait faire des propositions à la Convention par le chevalier de Caris, deux fois du reste, le 26 décembre 92 et puis ensuite en janvier. Mais je pense qu'il faut bien se rendre compte que, de toute façon, ça ne pouvait pas aboutir. Parce que ce que les révolutionnaires voulaient abattre, ce n'est pas un roi. C'est Louis XVI. C'est-à-dire quelqu'un qui incarne non seulement le souverain, mais le souverain, le chef d'État chrétien. Parce qu'il faut aller jusque-là. Les révolutionnaires qui vont survivre à leur propre purge se satisferont très bien de la Restauration. Et ils seront barons et comtes d'Empire ou sous la Restauration. Donc le principe monarchique en tant que tel n'est pas ce qui les gêne. C'est Louis XVI. Alors, comment voulez-vous imaginer que ça puisse exister? Vous comprenez, remplacer le roi, oui, mais remplacer Louis XVI, non. Ce qu'on veut abattre, c'est Louis XVI.
Alors nous avons autour de cette table un invité que connaissent bien nos auditeurs et qui a toujours entendu dire que justement ses propres ancêtres s'étaient portés volontaires pour être otages à la place du roi Louis XVI et de la reine Marie-Antoinette. Cet invité, c'est Hugo Frey et nous lui donnons la parole dans un instant.
Jusqu'à 14h sur Europe 1.
Plongez au cœur de l'histoire avec Franck Ferrand.
Et aujourd'hui, Franck Ferrand, vous revenez sur les extraordinaires tentatives de sauvetage de Louis XVI avec des invités de marque aujourd'hui.
Et oui, avec Philippe Laurensou, qui est historien, un grand spécialiste de Louis XVI et de cette période. Et puis, Hugo Frey. Bonjour Hugo Frey.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être venu jusqu'à ce studio. Je dis venu parce que je sais que vous êtes un fidèle de l'émission depuis des années.
Oui, oui.
Nous avons eu l'occasion souvent de nous parler au téléphone. Je suis ravi que vous soyez là. Alors, vous avez toujours entendu, vous, raconter cette tradition tradition familiale, et mieux que ça, vous en possédez des vestiges, de maigres vestiges, mais qui sont assez émouvants.
Alors juste pour revenir en arrière, j'ai entendu, comme vous venez de le souligner, parce que ma famille, mon père et ma mère ayant divorcé très tôt, c'est-à-dire en 1937, le divorce est une sorte d'incendie quoi dans une famille, surtout à cette époque-là. La guerre qui va venir ensuite.
Mais c'était juste à la veille de la guerre.
Voilà, la veille de la guerre, la maison dans laquelle mon père nous avait réfugiés pour éviter les bombardements a été complètement vidée de tout. Aujourd'hui, ce qui me fait me retourner un peu vers le passé, c'est un petit détail. Je m'étais aperçu que je n'avais aucune photo de mon père et de ma mère au moment de leur mariage. Je vous parle de ça il y a 50 ans. J'ai commencé à faire des recherches et par les cousins et les cousines, j'ai récupéré des photos de première communion, etc. Et puis, je suis tombé par hasard sur un papier qui avait été sauvé de ce tsunami. Ce papier était la copie
Un facsimilé.
Un facsimilé du testament de Louis XVI.
L'équivalent très ancien d'une photocopie, disons.
Voilà. Et sur lequel il est marqué au dos que ça a été offert à mes ancêtres, le baron, Gaston de Cobios, baron d'Andiran, et que c'était en remerciement pour le fait de s'être porté otage. Or, il se trouve que, effectivement, j'avais entendu dire ça par ma grand-mère, mais c'était uniquement oral. Et tout d'un coup, je me trouve en face d'une réalité. Et comme je cherchais mes photos que j'ai retrouvées, j'ai mis ça de côté. Et puis, en vous écoutant de temps en temps, comme ça, à la radio, j'ai pensé, il y a longtemps déjà, que c'était un sujet intéressant de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Car, effectivement, il faut dire une chose, c'est que se porter comme ça, comme otage, à la place de son maître, le roi et la reine, c'est d'abord une preuve de courage énorme. Et puis aussi, on pourrait dire aujourd'hui, au regard de ce que nous avons sur la peine de mort, c'est quelque part des gens qui se dressaient contre la peine de mort. Aujourd'hui, personne ne regarde la Révolution française avec cette optique. Qu'est-ce que ça serait si on avait supprimé la peine de mort pendant la Révolution française ? Alors, je me suis intéressé à ça. Et je me suis rendu compte que cette rumeur...
Il faut dire, Hugo Frey, que votre mère fait partie de cette famille. Hein. Vous êtes, par votre mère, Cobios d'Andiran, voilà. Donc de cette famille qui, justement, est de cette région, là-bas du Tarn.
Voilà, alors, en deux mots, c'est en plus de ça, ce qui est intéressant, c'est que ma maman, quand elle est décédée, a emporté avec elle dans la tombe, si je peux m'exprimer ainsi, son nom, son prénom, Amiel, A-M-Y-E-2-L-E, de Cobios, baron d'Andiran. Cette famille est, ce sont des Gascons. Le bon papa, donc mon grand-père maternel, vivait dans un petit village du Lot-et-Garonne, à l'endroit où le Lot se jette dans la Garonne, à l'endroit à côté d'Aiguillon, entre Tonneins et Aiguillon. Un petit village s'appelle Nicole. Mmh. Et c'est là, c'était la maison de famille. Nous n'avons plus rien. La maison de famille a été vendue, personne n'avait d'argent. Les papiers ont disparu. Il ne reste qu'une chose, c'est ce type qui, à mon âge, dit ben, il faut pas avoir honte de ses origines. Et c'est intéressant quand même de savoir d'où on vient.
Vous avez vu deux vestiges de cette époque. Vous d'abord un collier.
Alors, on a hérité de Marie-Antoinette d'un petit collier qui n'avait pas une très grosse valeur commerciale, mais qui était quand même un collier de Marie-Antoinette. Ce collier était la propriété de ma petite sœur Pascale Audrey, comédienne, qui malheureusement a disparu dans un accident de voiture et qui n'a laissé aucun message, aucune trace pour nous dire où elle avait mis ce collier en protection, dans une banque, dans un coffre, on ne le sait pas.
Le collier a disparu, alors nous parlons de ce collier.
Il a disparu, voilà.
Vous l'avez vu, vous ?
Je l'ai vu, je l'ai eu entre les mains. On l'avait fait d'ailleurs expertiser, comme étant un collier de cette époque-là, mais dont les brillants ou les diamants n'étaient pas de très grande valeur.
C'est très souvent le cas, oui.
C'était un collier, en tous les cas, d'une encolure très, très mince. Je ne sais pas si c'était un collier de petite fille ou de très jeune fille. Et puis, alors, il y avait une épée de Louis XVI qui avait disparu. Et comme moi je suis donc dans ce village du Lot-et-Garonne, très marqué par les mousquetaires, on appelait mon bon papa le dernier cadet de Gascogne. Il y avait dans le grenier des fleurets, des épées, des tas de choses. Et moi, pour ne pas que je me blesse, on m'autorisait à jouer avec une épée qui était coincée dans un étui. Et un jour, en sautant par une fenêtre, tel Zorro, qui était un héros moderne.
Ou D'Artagnan.
J'ai coincé ce fourreau dans la fenêtre et l'épée s'est dégagée. Et là, on a découvert qu'il y avait des traces de fleurs de lys. Visiblement, c'était pas une très belle épée d'une très grande valeur, mais c'était probablement donc, si vous voulez, ces deux objets, plus le papier que j'ai maintenant, tout d'un coup, on donnait corps à cette rumeur dont ma mère plaisantait un peu en disant « oui, oh, il semblerait que… » Mais eh ben, en vérité, c'est ça, je suis à la recherche de la vérité.
Alors avec Philippe Laurenceau, nous allons essayer de vous aider sur ce chemin de recherche de la vérité, Hugo Frey.
Invité de Franck Ferrand ce lundi pour nous parler du sauvetage avorté de Louis XVI.
Hugo Frey qui ne chantait pas en direct, c'est possible.
Bien sûr, mais j'ai choisi cette chanson, parce que vous m'avez donné le plaisir de le choisir, parce que le vrai combat de Hugo Frey, je vais parler à la troisième personne, ce n'est pas de savoir d'où je viens. Ça, c'est anecdotique, mais quel est le thème de ma vie? C'est la lutte contre le racisme. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai choisi cette chanson que j'ai chantée pour Martin Luther King en sa présence.
Finalement, on parle de mystère et d'énigme de la fin du XVIIIe siècle et vous nous parlez de l'abolition de la peine de mort et de lutte contre le racisme. Finalement, vous avez une vision très, très téléologique de l'histoire, Hugo Frey.
Je tenais à vous le dire.
Mais qui était déjà une vision chère à Louis XVI. Mm-hmm. Parce qu'il a commencé...
Philippe Laurenceau.
Il a commencé, lui, par abolir la peine de mort pour les déserteurs. Et il a recommandé de bien traiter, par exemple dans l'expédition La Pérouse, de bien traiter les indigènes qu'il allait rencontrer et d'être parfaitement honnête avec eux. C'était vraiment de les considérer comme des gens à part entière, ce qui était assez novateur pour l'époque, il faut bien le dire.
Alors Philippe Laurenceau, Hugo Frey nous a posé un certain nombre de questions. Moi j'en ai d'autres, nous allons y venir dans un instant.
Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Et oui, on se fait plaisir aujourd'hui. Tout le monde chante dans le studio, à la régie. C'est extraordinaire puisque nous recevons Hugo Frey qui vient de nous raconter donc, qui vient de plutôt de nous exposer le mystère, l'un des mystères de sa famille, cette famille de Cobios d'Andiran. Vous avez donc un facsimilé du testament de Louis XVI. Un collier qui aujourd'hui a disparu et qui proviendrait de Marie-Antoinette. Et puis cette épée avec laquelle vous aviez l'audace de jouer enfant, mais qui semblerait bien être ce qu'on appelait une épée d'honneur, c'est-à-dire un objet votif ou en tout cas de remerciement offert par Louis XVI à l'un de vos ancêtres. Alors est-ce qu'on peut comprendre ce qui s'est passé, Philippe Laurenceau? Est-ce qu'il est probable qu'un Cobios d'Andiran ait fait partie de ces conjurés, de ces agents royalistes qui voulaient sauver la famille royale, peut-être avant même son emprisonnement au temple du reste?
Ah ben, très certainement. Il y a une chose que l'on sous-estime, je crois, c'est l'extrême popularité de Louis XVI. Jusqu'au 10 août, et même après, on sent très bien que les révolutionnaires ne sont pas tout à fait certains de ce qui peut se passer. Après tout, il pourrait y avoir après le 10 août...
D'où ces masses de soldats qu'on a massées tout le long du parcours de la voiture de Louis XVI, hein, entre le temple et la place de la Révolution.
Tout à fait, et déjà même, du reste, lorsqu'il est comparé à la Convention pour le procès, il y a un luxe de précaution extraordinaire, parce que les révolutionnaires savent bien que, d'une part, leur régime n'est pas très populaire, que d'autre part, il y a un certain nombre de gens qui ont vu leur devoir clairement et qui, comme me disait très justement Hugo Frey il y a un instant, avaient un certain courage avec un C majuscule, qui étaient prêts à tout donner, à donner leur vie pour tenter éventuellement l'impossible.
Alors, nous avons évoqué tout à l'heure la figure du baron de Basse. Nous avons dit un mot du chevalier de Rougeville. Est-ce qu'on peut le comparer au chevalier de Maison Rouge d'Alexandre Dumas? C'est le même genre de personnage? Ou est-ce que Dumas en a vraiment beaucoup rajouté?
Mais c'est-à-dire que toute cette littérature est assez romancée, du reste déjà dans le goût de la fin du XVIIIe siècle. On invente des détails, on prête parfois des mots qui n'ont pas pu être prononcés parce que ce sont des anachronismes. Disons que on ne sait pas très bien, en fait, quelle est la limite, entre la frontière entre ce qui est réel de ce qui ne l'est pas. Laissons peut-être aux auditeurs le soin d'essayer de départager.
Ce qui est intéressant dans leurs deux cas, c'est qu'ils meurent tardivement, hein, tout de même. Le baron de Basse ne mourra, je suis en train de chercher dans mes petites fiches, mais je crois que si ma mémoire est bonne, il ne meurt qu'en 1822. Mmh. Donc il a survécu à la Révolution, à l'Empire, à la Restauration, enfin une partie de la Restauration. Il continuera du reste de faire de grandes affaires, des affaires politiques et financières, bien après la mort de Louis XVI et bien après les complots dans lesquels on l'accuse d'avoir trempé.
Oui, c'est-à-dire que le baron de Basse a profité de la Restauration, donc de la venue de Louis XVIII, qui avait tout intérêt à s'attirer personnellement les hommages de gens qui avaient soutenu Louis XVI, parce que c'était autant de dommages qui lui étaient rendus à lui-même, même si nous savons que historiquement Louis XVIII a été un grand ennemi finalement de son frère aîné qu'il jalousait terriblement. Tant et si bien du reste que lorsqu'il est mort, il se proclame régent en oubliant complètement que dans la tradition monarchique française, c'est la mère du dauphin qui est régente.
Normalement, oui. Quant à Gonce de Rougeville, donc, dont nous parlions, qui a lui été l'âme de ce qu'on a appelé le complot de l'œillet, c'est-à-dire cette ultime tentative d'extraire Marie-Antoinette des cachots de la conciergerie juste avant son procès, il ne mourra à Reims, en l'occurrence, qu'en 1814. Je suis tout fier de le citer parce que j'ai enfin retrouvé. Donc, tous ces gens-là n'ont pas été victimes de leurs ennemis révolutionnaires. En revanche, des victimes, il y en a eu, et je parlais de cette messe rouge de mai 1794, hein, ce 17 mai 1794, ça a été vraiment là, il y a eu beaucoup de victimes. Qu'est-ce qu'on reprochait finalement à ces 54 inculpés d'avoir voulu attenter à la vie de Collot d'Herbois et surtout de Robespierre?
Oui, c'est-à-dire que tous ces grands noms de la Révolution et de la Terreur étaient extrêmement impopulaires et un certain nombre de gens ont essayé, avec plus ou moins de bonheur ou d'intelligence, comme la pauvre Charlotte Corday avec Marat, de débarrasser le paysage politique de ces gens qui n'étaient loin d'être des démocrates et qui étaient vraiment des gens très sanguinaires, malgré ce côté très, très élégant, très policé d'un Robespierre.
Oui, je fais très attention parce que il se trouve qu'à la suite d'une émission de télévision que nous avons faite sur Robespierre et la Vendée, je suis en relation un peu tendue avec un certain nombre de robespierristes, bien entendu. Et nous avions fait à ce même micro une émission sur Robespierre pour montrer toute l'ambiguïté de ce personnage. Ce qui est loin d'être ambigu, en revanche, c'est le régime dont il est à travers le comité de salut public, l'incarnation, qui est quand même, objectivement, qu'on le veuille ou non, un régime très, très dur et très sanguinaire, pour reprendre thématique de la peine de mort.
On n'a pas trop le droit de le dire.
ça passe mal,
disons. Oui.
Qu'est-ce que vous aimeriez, Hugo Frey, tirer de tous ces souvenirs, etc. Vous aimeriez retrouver l'histoire de votre famille?
Ben, je vais vous dire, c'est d'abord la recherche d'une photo de mes parents, je l'ai trouvée. Et je m'étais promis de vous offrir un petit livre que j'ai publié il y a quelque temps où elle figure, cette photo, je vous la porterai la prochaine fois. Mais actuellement, je suis, à la demande d'un éditeur, en train de me pencher sur l'ensemble de ma vie. Et donc, je suis en train de chercher les sources. C'est très intéressant. C'est pour la première fois de ma vie, je fais un petit travail d'historien. Et donc, c'est normal parce que je pense que, comme chaque arbre, chaque plante a une essence qu'on peut expliquer. Certaines plantes viennent du Mexique, d'autres des Indes, etc. Vivent la différence. Et moi, je suis mon combat. Je vous l'ai dit, c'était la lutte contre le racisme, mais principalement. Beaucoup plus que l'égalité, je cherche la fraternité. Et la fraternité entre les hommes, et c'est la base même de la paix. Et la fraternité n'exclut pas du tout les différences, au contraire.
Qu'est-ce qui vous passionne dans l'histoire? Je sais que vous écoutez beaucoup d'émissions, vous lisez énormément de livres. Oui. Vous passez beaucoup de temps devant des documentaires historiques, etc. Oui, vous êtes vraiment un passionné de l'histoire.
La science, mon frère Jean-Paul, oui, lui, qui est un grand mathématicien.
Jean-Paul Auffray, oui, bien
vous
sûr.
Aviez consacré d'ailleurs une émission sur son livre.
Travail sur Einstein,
à la recherche de la relativité. Moi, c'est les sciences et l'histoire parce que comme le disait notre ami historien dont je n'ai pas retenu bien le nom. Mais je voulais dire que c'est la vérité.
Philippe Laurensou, pardon.
J'ai parlé de fraternité, de lutte contre le racisme, mais vérité avant tout. Pourquoi mentir ? On ne peut pas bâtir un monde en paix si on n'a pas le culte de la vérité.
Bon, absolument. Moi, je milite un peu pour ma propre paix. Alors, puisque nous avons dit beaucoup de mal de Robespierre, je vous propose quelques petites secondes de « Ça ira » tout de même. Cette émission, je l'espère, a intéressé nos auditeurs. J'espère qu'elle aura servi au moins à leur faire comprendre l'extrême subtilité, complexité, ambiguïté de cette période révolutionnaire. Et il y a eu des points de vue et des partis pris très subtils et qui parfois chez un même personnage, je ne vais pas que vous citiez Hébert hors micro là à l'instant, finalement change hein, d'une période à l'autre. Il y a des évolutions dans la pensée de chacun. C'est une période infiniment troublée, bien entendu, que celle de la Révolution, surtout lorsqu'on parle de la question centrale du sort de la famille royale, bien entendu. Merci beaucoup Philippe Laurensou. Nous lirons avec énormément d'intérêt la biographie des Giraud de Coursac sur Louis XVI et nous vous réinviterons à cette occasion si vous le voulez.
Plaisir,
ce sera donc à la fin de cette année. Et merci beaucoup à Hugo Frey. Merci. Continuez à nous écouter, Hugo Frey, et revenez quand vous voulez.
Mais voilà. Je viendrai vous présenter mon livre.
Volontiers.